mission in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye, you perceive with your mind.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans l'émission de La Forêt des Possibles au 88.4. Nous sommes le mercredi 19 novembre 2025 en direct de 19h à 20h. Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion sur Radio Galère demain jeudi 20 novembre de 9h à 10h ainsi que en podcast sur Spotify, Apple Music et Amazon Music. Chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, l'émission de La Forêt des Possibles met d'habitude en valeur les acteurs et actrices des transitions écologiques et sociales de Marseille et de ses environs. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés et incapables de répondre à l'ensemble des questions et des enjeux de notre société. Mais ensemble, ils s'enracinent, coopèrent, donnent du fruit pour faire pousser la société de demain et vous invitent à les rejoindre pour y trouver votre juste place. Une fois n'est pas coutume, ce soir notre format est un petit peu différent. Cette semaine, nous invitons Johan Longchamp. Bonsoir Johan.
Bonsoir Marin.
Johan, agent immobilier de Yadé, pour l'interroger sur les incidences sociales et environnementales de son métier. C'est une première et je dois avouer que je suis assez excité par la démarche. Recevoir des professionnels de l'économie classique et les questionner sur leur impact. Alors, comme chaque première, on vous invitera à être un peu indulgent et bienveillant et nous prendrons avec plaisir vos retours pour affiner le format. Comme je le disais, Johan, tu es agent immobilier pour Yadé et tu accompagnes les familles dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Parallèlement, tu formes et coaches les entrepreneurs au sein de ton équipe en les guidant dans l'immobilier, l'entrepreneuriat et le marketing de réseau. Ce soir, notre problématique de l'émission sera de savoir quels sont les impacts que peut avoir un agent immobilier sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et il s'agira de recueillir tes retours de terrain. Et nous, parfois aussi, de te challenger un petit peu. Pour cadrer notre échange, ceci n'est pas une conférence sur le sujet de la propriété à proprement parler. Sinon, nous aurions également invité un bailleur social, des élus, des chercheurs, des habitants pour avoir une table ronde qui soit plus complète sur cette question. Ce faisant, je décide d'exclure du champ de notre discussion des éléments plus fondamentaux qui pourraient faire l'objet d'un plateau radio à proprement parler, et notamment la question de la légitimité de la propriété privée, notamment défendue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 2, qui, je cite, dispose « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Mais aussi dans son article 17, la propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ce concept de propriété a été très largement discuté et c'est pour ça qu'on décide de l'exclure là, parce que ça ne sera pas l'objet ce soir. Je citerai juste un auteur anarchique qui s'appelle Proudhon et qui avait écrit dans une œuvre qui a beaucoup marqué la pensée anarchiste et communiste au 19e siècle, qui est « Qu'est-ce que la propriété ?» qui écrivait « La propriété, c'est le vol ». Ce sont des termes synonymes et donc je déciderai que ça ne sera pas l'objet, parce que cette question-là de la propriété, c'est une question politique fondamentale et donc ça pourrait faire l'objet en tant que tel d'une table ronde qui ne sera pas l'objet de ce dont on va parler ce soir. Ce dont on va parler ce soir, ce sont des incidences de terrain, des incidences concrètes que ça a dans nos vies de tous les jours, avec quelques questions, avec des chapitres. Le premier chapitre, ça va être de parler de l'état du marché. Le deuxième, ça sera sur la question de l'accessibilité sociale et de la fracturation territoriale. Le troisième chapitre consistera à parler de la question du surtourisme et de l'incidence que ça peut avoir sur les prix et l'attractivité des quartiers. Le quatrième sera sur la question de la rénovation thermique et de l'empreinte écologique. Le cinquième sera la question de l'adaptation aux risques climatiques. Et le dernier, ça sera des questions de prospective sur l'avenir de la ville et de notre métier. Tout un programme. Bonsoir Johan.
Bonsoir Marin.
Et donc je suis Marin Moffret, accompagné ce soir par Jeanne Ray qui est en régie. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Marin, bonsoir à tous et à toutes.
Je t'invite à parler un peu plus fort, Jeanne, quand on t'écoutera dans notre discussion. Et donc, cette présentation étant un peu terminée, Johan, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de parler un peu de l'état du marché, mais aussi tout simplement de te présenter, pour celles et ceux qui nous écoutent, savoir un peu qui est derrière ce micro. Ouais.
Alors moi, ça fait 14 ans que je suis arrivé à Marseille. Au départ, je viens plutôt de région parisienne. Je n'ai pas toujours été agent immobilier. Je suis agent immobilier depuis 2019. Et c'est grâce au réseau IAD que j'ai pu faire cette reconversion professionnelle. Donc IAD, c'est un réseau qui a été créé en 2008. Aujourd'hui, c'est le plus gros réseau de mandataires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez vendre votre bien... Vous pouvez passer par une agence immobilière ou par un mandataire. Les mandataires, ce sont bien souvent des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui vivent de cette passion, parce qu'au final, quand on fait de l'immobilier, on le fait par passion. Donc voilà, j'ai 42 ans, j'ai deux beaux enfants et j'ai un plaisir fou à exercer mon métier à Marseille. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est surtout accompagner les changements de vie. Parce que chaque bien immobilier, chaque vente, ça peut être des primo-accédants, ça peut être des retraités, ça peut être des couples parfois qui se séparent. Mais pour moi, j'attache beaucoup d'importance à accompagner mes clients dans ce changement-là. Et c'est le sens que je trouve à mon métier, en tout cas.
Merci pour cette question, la question des changements de vie. On va avoir tout un volet social qu'on va aborder ensemble dans cette table ronde, enfin dans ce plateau plutôt. Mais peut-être dans un premier temps, je serais curieux d'avoir ton regard sur l'état du marché, si jamais on dit de manière très générale, à quoi ça ressemble Marseille aujourd'hui, entre de l'attractivité, des tensions. Quel est le regard que tu portes dessus en tant que professionnel ?
Alors, Marseille, le marché immobilier marseillais, le prix moyen du mètre carré, c'est à peu près 3600 euros. C'est l'une des métropoles, on va dire françaises, les moins chères, les plus attractives. Donc, à Marseille, on a des gens de partout. On a des gens de Paris, on a des gens de Bordeaux, on a des gens de La Rochelle, on a des gens qui viennent de Suisse. On a aussi des expatriés qui viennent investir à Marseille. On a aussi beaucoup de Parisiens, on a beaucoup de Lyonnais qui viennent s'installer à Marseille, parce que Marseille, c'est quand même une ville magnifique, et puis on a plus de soleil qu'ailleurs. Donc l'état du marché, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une ville qui reste attractive pour les investisseurs.
Mmh. Est-ce que tu as observé ces dernières années un changement ? On dit que Marseille est à la côte depuis notamment... Ouais. Ça s'est fait en plusieurs temps, l'arrivée du TGV, puis ensuite Marseille capitale de la culture, et encore plus puissamment après le Covid.
Ouais.
Est-ce que c'est des choses que tu observes ?
Ouais, clairement, c'est une ville qui s'est modernisée, qui s'est embellie, et je pense que ça c'est agréable pour les Marseillais, et c'est aussi agréable pour les gens qui viennent la visiter. Et puis ça se ressent dans l'augmentation des prix de l'immobilier. Tout à l'heure, je regardais, on a eu du plus 9, je crois, de 2019 à 2020. Je crois que de 2019 à 2025, on doit être sur du plus 20% quand même, cumulé. Donc ça, c'est assez important. Alors quelque part, on partait d'assez bas, puisqu'aussi il y a le parc immobilier marseillais qui était quand même assez vieillissant, qui l'est toujours en comparaison à d'autres grandes villes de France. Et ça, je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard.
Voilà. Tu voulais finir un point ?
Non, vas-y.
Merci pour ce premier tour. On va donc rentrer dans des chapitres. Et le premier chapitre que je te propose, c'est celui de l'accessibilité sociale, des logements, les prix et notamment la question de la fracture territoriale. Alors j'ai fait une petite recherche pour préparer cette émission et j'ai noté quelques chiffres marquants. Il y a 50 000 demandes de logements sociaux à Marseille qui sont en attente. Alors, un logement social, c'est pas un propriétaire, mais malgré tout, ça témoigne d'une certaine forme de vulnérabilité d'une partie de, quand même non substantielle de la ville. 50 000 demandes, on est 890 000 personnes habitées à Marseille. Généralement, on n'est pas tout seul quand on fait la demande d'un logement, si jamais on a une famille avec soi. Donc on imagine le nombre de personnes totales que ça peut représenter. Et un deuxième chiffre marquant, c'est 40 000 logements qui sont considérés comme étant potentiellement indignes. Donc la première question que je te poserai sur ça, c'est le fait que Marseille connaît de très fortes inégalités d'accès au logement. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens dans ton travail ?
Alors, moi, ce que j'aimerais déjà définir, c'est le fait de constater qu'on a des logements indignes, et c'est de se dire pourquoi ils sont indignes, la cause des causes. Ils sont en général indignes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont hérité bien souvent d'un bien et qui ne l'ont pas entretenu. Mmh. Qui ont récupéré les loyers. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé rue d'Aubagne. Ils ont juste perçu les loyers sans entretenir les immeubles. Et ce que je vois, moi, en parallèle, et ça rejoint un autre point qu'on abordera tout à l'heure, ce sont les investisseurs. Les gens qui font de l'investissement locatif, bah, mine de rien, ils rachètent. Ils rénovent. Alors, ils exploitent aussi pour la location, mais ça permet de rénover aussi le parc immobilier. Donc, l'accessibilité au logement, oui, elle est difficile. Si le parc progressivement n'est pas rénové, s'il n'y a pas des politiques incitatives pour aider au moins les privés à investir, bah effectivement, ouais, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Un petit peu compliqué.
Et alors, comme on disait, l'angle qu'on prend par rapport à cette émission, c'est un angle de terrain.
Ouais.
Je voulais savoir si tu avais des marges d'action en fait, ou d'influence justement pour pouvoir favoriser l'accessibilité au maximum de personnes.
Alors, à mon petit niveau, oui, parce qu'en fait, IAD, ce qu'il faut savoir, c'est que chez IAD, on est quand même formé et on a une déontologie. Et de toute façon, n'importe quel agent immobilier là, on signe une charte de non-discrimination. C'est-à-dire que, par exemple, je fais de la location, je dois répondre à tout le monde, je dois considérer tous les dossiers et expliquer aux gens pourquoi leur dossier n'est pas retenu. Et effectivement, alors, moi, je n'interviens pas du tout dans les HLM ou dans cette partie-là, mais dans la location, y a plein de... On vous demande bien souvent en garantie de gagner au moins 3 fois le montant du loyer, d'avoir des garants, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le privé, il y a aussi beaucoup de garanties des loyers impayés. C'est-à-dire qu'il y a les propriétaires bailleurs ont peur et prennent des assurances de garantie de loyers impayés.
Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, que ce système-là ? Souvent, là, expérience de terrain, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ah là là, moi j'ai beaucoup de mal à trouver, me demande de payer je ne sais pas combien de mois en avance.
Ouais. »
Et donc, ça peut créer un frein aussi à l'accession.
C'est ça. Ça crée un frein parce qu'au final, les dossiers sont analysés plus par les assureurs que par les agents immobiliers. Nous, on recueille les documents, on les envoie à une société de gestion locative. Et c'est plutôt l'assureur qui assure la société de gestion locative avec cette garantie des loyers impayés qui va dire « je prends tel ou tel dossier ». Donc, c'est vrai que c'est plus comme avant. Avant, on se rencontrait, on se serrait la main avec le propriétaire bailleur et puis on se faisait confiance. Non. Donc, c'est une des choses qu'il faut savoir. C'est très difficile, il y a une très grosse tension. Moi, à chaque fois que je mets un bien en location, j'ai des dizaines et des dizaines d'appels. Mmh. Les annonces, bien souvent, elles restent 2-3 jours. Et puis, ça part tout simplement à la location.
Ok. Donc, ça va à toute vitesse, ouais.
Ça va à toute vitesse.
Et ça, tu l'observes ?
Parce qu'il y a une pression, parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, il y a un manque de logement.
Et ça, tu interviens sur tous les quartiers marseillais ?
Sur la plupart, oui. Ouais, sur la plupart.
Et tu observes les mêmes dynamiques dans tous les quartiers ou justement, on peut se dire qu'il y a certains quartiers qui ont extrêmement la côte, autour de la côte, autour du Vieux-Port.
Ouais.
D'autres qui l'ont beaucoup moins.
Ouais.
Encore cette semaine, la semaine dernière, la ville de Marseille a été endeuillée par un terrible assassinat politique du petit frère d'un candidat écologiste qui s'appelle Amine Kessassi et qui j'adresse mes pensées ce soir, mais qui aussi témoigne de certains quartiers dans lesquels bah, il s'est vraiment gangréné. Donc j'imagine que toi, dans ton expérience de terrain, c'est en fonction de l'endroit où tu interviens, c'est pas du tout les mêmes logiques qui se mettent en place.
Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette justement que Marseille soit différent. Tu l'as très bien dit, dans le centre, il est très dynamique. Le centre, le 7e, c'est très dynamique. Pourquoi ? Parce que bah, c'est une catégorie socio-professionnelle qui a les moyens, qui a du patrimoine et qui peut investir facilement. Et plus on s'éloigne du centre, bah, plus on se rapproche de, on va dire, c'est la, comment dire, de la classe moyenne. C'est ça qu'on n'entend plus parler de la classe moyenne en général à la télé ou sur Internet, mais la classe moyenne, elle existe et elle a de plus en plus de difficultés avec la montée des taux d'intérêt. Elle a des difficultés aussi à investir. Donc nous, on le voit, hein, les agents immobiliers de Marseille se jettent sur le centre-ville, puis après, ils se prospectent un peu plus autour parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et après, bah, effectivement, plus tu élargis, plus tu arrives sur les quartiers nord et plus là, c'est difficile. Et là, l'immobilier est différent. Alors, les quartiers nord aussi ont tendance à attirer les investisseurs. Pourquoi ? Parce que ça fait peut-être 15 ans que les investisseurs ont déjà investi le centre-ville et qu'il y a un intérêt en termes de, comment dire, de rentabilité locative à acheter dans les quartiers nord pour pouvoir avoir une rentabilité intéressante. Parce qu'il y a des appartements à 30 000, à 40 000 euros que vous pouvez louer derrière. Et vous pouvez aussi les louer comment dire, assez facilement, puisqu'effectivement, il y a un manque de logement.
Puis il y a une proposition faite par Euromed, en tout cas, de remonter le long du littoral, qui remonte dans les quartiers nord toujours un peu plus haut.
C'est ça.
Là, ces derniers temps, il y avait des éco-quartiers aux crottes, il me semble, avec justement la proposition de tout nouveaux quartiers entièrement reconstruits après avoir tout rasé de ce qui se passe avant et qui sont juste à côté de quartiers qui sont là depuis plus longtemps. Un endroit qui me semble assez marquant, c'est ce qui se passe au niveau de Bougainville, avec d'un côté Euromed, la tour CMA-CGM, la tour La Marseillaise, et puis de l'autre, le quartier de Félix Piat. Il y a seulement 500 mètres d'écart, mais il y a beaucoup plus de kilomètres qui séparent, on va dire, en termes de monde, ces personnes qui s'y côtoient.
Bien sûr.
Ça, comment tu observes ça, ces disparités si puissantes qui font, quand on voit ça, on se dit, mais on a l'impression d'être dans mon livre d'histoire géo, avec des quartiers, des univers si différents.
C'est des quartiers en construction, ce sont des quartiers neufs et qui sont encore en construction. Alors moi, de mon point de vue en tant qu'agent immobilier, j'ai des mandats dans ces quartiers-là. Donc, en général, ce sont des projets neufs qui ont été achetés en Pinel et qui servent aux gens qui ont un petit peu d'argent à défiscaliser. Une fois que le Pinel s'est terminé, le sujet pour ces investisseurs, c'est de revendre. Et là, la difficulté, c'est que on se rend compte qu'un appartement de 70 mètres carrés qui a été acheté sur plan à 200-210 000, aujourd'hui, on le revend difficilement à 160 000. C'est compliqué. C'est compliqué parce que qui va racheter ? Les investisseurs, c'est plus trop intéressant en termes de rentabilité locative. Et puis les gens qui veulent accéder à la propriété dans ces quartiers, c'est plus rare. En fait, tout le monde cherche le centre-ville ou les quartiers du sud et pas forcément le nord. Et c'est ce qu'on disait aussi en préparation de l'émission. Moi, j'ai le cas de figure, par exemple, sur un appartement. Donc le locataire a la possibilité d'avoir une préemption sur l'appartement. C'est-à-dire que c'est la première personne qui peut l'acheter. Et la difficulté, c'est que l'arbitrage du locataire, c'est j'ai peut-être pas d'intérêt à m'endetter à prendre un prêt immobilier avec des mensualités à 700 euros par mois si j'ai déjà 500 euros de CAF à côté. Et donc là, on va peut-être parler de la propriété privée, enfin je sais pas. Mais moi,
tu peux dire ce que tu as en tête.
Moi, à mon sens, faut plutôt encourager les gens à devenir propriétaires plutôt qu'à devenir locataires. Je crois que c'est sur le marché allemand où les Allemands sont majoritairement plus locataires que les Français. Les Français sont plus propriétaires. Et moi, je le vois dans des copropriétés. En fait, tu vas dans un immeuble où tu as 80% de logements en location. bah, les parties communes ne sont pas forcément entretenues, les gens ne respectent pas parce qu'ils y sont forcément pour moins longtemps, puis ce n'est pas leur patrimoine. Alors que dès lors où on encourage des gens, même des classes populaires, à acquérir et à devenir propriétaire, bah, quand on est propriétaire, on fait attention à son bien, puisque derrière, on va le transmettre à ses enfants ou on va le revendre. Donc moi, pour moi, un des enjeux de société, c'est arrêter d'infantiliser les gens avec des aides sociales, c'est les aider à devenir propriétaire et à se responsabiliser. Et ça ira plus loin sur l'écologie aussi après.
Tu me disais qu'il y avait effectivement cette question-là sur la question de la rénovation. Ouais. Sur le rapport à l'accès à la propriété, effectivement, je pense qu'on pourrait rentrer dans des débats de philosophie politique sur lequel je pourrais... Non, rien. Il y a un truc qui est tombé de l'autre côté de la vitre. Où on pourrait rentrer là-dedans, mais là, c'est pas le prisme pour ce soir. Tu as beaucoup parlé de la question des quartiers centraux et du sud, et j'aimerais pouvoir t'amener sur un autre chapitre qui a des questions un peu corollaires à ça. C'est la question du tourisme. Oui. La question aussi des Airbnb avec la transformation des quartiers. Un chiffre à donner là-dedans, qui est un chiffre de la directrice de l'INSEE PACA, c'est que 8,2% des logements sont vacants à Marseille et qu'il y a 13 758 annonces sur Airbnb à Marseille. Avec ce que ça peut entraîner ensuite justement de pression que ça peut avoir sur l'accès au logement. Moi, j'ai un de mes bons amis qui s'appelle Logan. Alors, il ne cherchait pas à acheter, mais il a mis 6 mois à trouver un appartement.
Ouais.
Et quand on est jeune et qu'on cherche un peu un appart en centre-ville, on se rend bien compte de la difficulté. Donc là-dessus, c'est... Est-ce que toi, tu vois ça, déjà, le fait qu'il y ait ces quartiers qui soient extrêmement pressurisés? Et est-ce que tu penses que les régulations qui sont actuellement en place sont suffisantes ou pas?
Alors, le Airbnb, il s'est effectivement développé de manière exponentielle à Marseille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Airbnb, il peut s'auto-limiter dans le sens où, par exemple, bah, c'est le cas de Paris, mais maintenant c'est aussi le cas de Marseille. Il y a tellement de Airbnb, il y a tellement de concurrence qu'au final, c'est même plus intéressant d'en faire. C'est-à-dire que quand tu as trop de Airbnb, ça baisse les prix à la nuitée. Donc là, je pense que mécaniquement, naturellement, on arrivait déjà à une saturation du Airbnb sur Marseille. Je reprends le point de tout à l'heure en disant que bah, ces investisseurs qui ont fait de l'investissement locatif et qui ont retapé des vieux apparts dans les centres-villes, bah, mine de rien, ils ont aidé à rénover le parc immobilier marseillais. Donc ça, ça a quand même un grand intérêt. Maintenant, effectivement, le fait que la mairie de Marseille intervienne pour le limiter, oui, effectivement, il faut le faire. C'est bien de l'encadrer. Mais aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, si on a trop de Airbnb, peut-être que demain aussi, on en aura peut-être pas suffisamment en fonction des événements, en fonction de ce qu'il y aura à faire sur Marseille. Donc, c'est à la mairie de regarder ça, mais attention, il ne faut pas perdre de vue que, mine de rien, cet élan a permis à beaucoup d'investisseurs de rénover. Donc comment on fait pour continuer à rénover s'il n'y a plus cet intérêt aussi pour les gens qui ont de l'argent pour investir et rénover?
Après, tu peux avoir la question de la vitalité des quartiers. Aujourd'hui, comment tu regardes le quartier du Panier, qui est un quartier qui est tout à fait touristique, charmant, où il y a souvent écrit sur les murs Stop Airbnb ou partez d'ici, justement parce que quand on connaît son histoire, c'est quand même par là qu'est arrivée la ville de Marseille. C'est ici que sont arrivés les Grecs, il y avait des temples grecs, puis des temples romains, même jusqu'au début du XXe siècle, c'était là que se trouvaient un certain nombre de familles italiennes qui venaient d'arriver. Et puis ensuite, aujourd'hui, quand on y va, je trouve que ça peut parfois avoir un peu un sentiment de surfait, en tout cas de moins vitalisé que ça n'a pu l'être dans la manière dont on le raconte. Toi, comment tu vois ça dans une politique de quartier par rapport à de la vente?
Alors, par contre, moi en ce moment, j'ai pas mal de biens sur le Panier qui étaient en Airbnb et qui partent effectivement à la vente pour de la résidence principale. J'ai le cas par exemple rue Trigance, Je viens de vendre un appartement qui était en Airbnb. Progressivement aussi, avec les soucis, parce que le Airbnb, mine de rien, c'est aussi des soucis pour le propriétaire parfois. Parce que le fait que vous ayez beaucoup, que tu aies des gens qui s'enchaînent de jour en jour, de nuitée en nuitée, les appartements s'usent, il y a tout le temps un truc de cassé, il y a tout le temps un sujet en fait. Quand tu loues ton appartement en Airbnb, il y a toujours un truc de cassé. Donc les gens se lassent et ils finissent par le mettre en location. Donc ça ouvre le parc mécaniquement, puisque l'activité même du Airbnb, elle est quand même assez complexe. Et puis les conciergeries, elles sont débordées. Elles se montent, elles gèrent 10, 20, 30 biens, et puis elles saturent et elles gèrent moins bien. Donc les propriétaires bailleurs préfèrent passer sur de la location plus traditionnelle où j'interviens également. Mmh.
Parce que ça, peut-être, attends, tu voulais finir ton point ?
Et une fois, effectivement, enfin, et après, suite à cette location, souvent l'idée c'est, bon, bah, à un moment donné, je vais vendre, puisque mon projet en Airbnb, bon, je l'ai fait pendant 5 ans, 6 ans, j'ai mis en location 2 ans, l'étudiant est parti, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va passer peut-être à un autre investissement. Donc là, ils vendent, et là, c'est des primo-accédants qui achètent.
Parce que là, petit appendice aussi sur ton métier, ouais. On a beaucoup parlé de la question de l'achat de la propriété, mais tu t'occupes aussi de la partie locative.
Oui.
Peut-être que tu peux présenter cette partie-là, titre de présentation.
Sur la partie, oui, on fait de la partie, sur ma partie, moi, sur le terrain, donc avec IAD, si vous avez donc un projet de location, moi, je m'occupe du shooting, je m'occupe de l'annonce et je m'occupe de faire visiter l'appartement. Et puis, on a une deuxième phase qui est la gestion locative, donc avec Home Pilot, donc c'est une société qui a été rachetée par IAD, où là, en fait, vous avez votre intranet, votre locataire a son intranet, et puis vous pouvez donc récupérer, enfin, le locataire peut récupérer sa quittance de loyer et tout est géré en fait à distance grâce à Home Pilot. Et moi, ma plus-value, c'est que je reste quand même humainement, physiquement sur cette partie de gestion locative. Parce que bien souvent, il y a des sociétés de gestion locative qui sont externalisées. Il n'y a personne ensuite pour intervenir physiquement sur le logement. Moi, c'est quelque chose que je peux faire et où je vais même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je vais même aux assemblées générales de mes clients pour savoir ce qui se passe dans l'immeuble et puis leur faire un retour.
Je vois le temps qui file et j'ai envie de te poser une dernière question. Là, dans cette première partie, on a surtout parlé finalement des questions sociales, avec la question de l'accessibilité, de la fracture territoriale, la question du Airbnb, la difficulté d'accès pour certaines populations. Tu nous disais que c'était la partie humaine qui te parlait le plus dans ton métier.
Ouais.
Je t'inviterais peut-être à présenter ça, comment ça te touche pour donner la conclusion partielle de cette partie-là avant la pause.
Comment ça me touche humainement, c'est ce que je disais. Je vais te raconter. J'ai vendu une maison il y a de ça, je sais pas, un an et demi. Et en vendant cette maison, donc tu sais que tu as le compromis, après tu as l'acte authentique. Donc l'agent immobilier est forcément content de toucher ses honoraires derrière. Et il se trouve que ma cliente a eu un problème de santé. On a su qu'elle avait un cancer le jour de l'acte authentique. Et ça m'a vraiment gâché le plaisir. Ça m'a vraiment gâché le plaisir. C'est-à-dire que bon, tu es content en tant qu'agent immobilier parce que tu as passé 3 mois à trouver un acquéreur. Ensuite, il y a encore eu 3 mois. Enfin, tu fais ton boulot. Et humainement, quand tu vois que ton client va pas, t'as pas ce plaisir là. Donc non, moi, pour moi, la partie humaine de mon métier, elle est très importante. Et c'est pareil, on me l'a encore dit d'ailleurs cet après-midi, je salue Cécile, merci pour vos compliments. Cécile, en fait, elle est en train de m'acheter un appartement, mais elle a mis aussi en vente son ancien appartement et elle a eu beaucoup de mal à trouver un agent immobilier, on va dire, un peu clair et compétent. Et elle m'a dit qu'elle avait pas mal apprécié mon côté humain, c'est-à-dire que je suis allé vraiment jusqu'au bout. Voilà, tu veux qu'on enchaîne ?
Bah, je pourrais peut-être faire un mini appendice là-dessus. Ouais. Là, moi, je vais parler d'expérience, de choses que j'ai vues. Il y a quelques années, j'étais en service civique à Félix Piat, et on me disait aussi qu'on ne pouvait pas être bien à l'extérieur quand on n'était pas bien à l'intérieur. Et pour avoir fait du porte-à-porte dans un certain nombre des grandes tours de Félix Piat, avec des états de délabrement qui étaient catastrophiques, des, des punaises de lit, des marchands de sommeil, des ascenseurs cassés. C'est difficile ensuite de pouvoir espérer mener une vie épanouissante dans la cité, au sens vraiment noble de la cité, la ville, quand en soi, on ne se sent pas bien chez soi. Quoi.
Oui.
Et donc je trouve que ça témoigne à quel point c'est important d'avoir son espace, quoi, son cocon, son endroit vital où se retrouver. J'irai pas plus loin dans mes propres expériences de vie, mais je trouve que c'est extrêmement marquant. Et là je parle en termes de ressenti personnel, de si jamais on se sent pas bien chez soi, c'est difficile de se sentir bien de manière générale. Et donc ça montre bien aussi les incidences que tu peux avoir directement dans la vie des gens, hein, par rapport à ce que tu nous partages. Je vois qu'on arrive sur le moment de la respiration musicale. Ce que je te propose, c'est de nous expliquer ce qu'on va écouter.
Ouais.
Et puis il me semble qu'il y avait une petite raison derrière, donc de nous dire pourquoi.
Vous allez écouter Orange Blossom, Lost. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de rapport avec le titre, mais en fait, c'est un titre que j'écoutais beaucoup quand je suis arrivé à Marseille. En fait, Orange Blossom, ça mélange beaucoup d'influences différentes, orientales, occidentales, latines. Les rythmes sont, très, très profonds. Et je pense que ça va vous inspirer. Pour moi, ce titre, c'est vraiment un reflet de Marseille. Un reflet de Marseille avec sa diversité. Et vous allez voir qu'il y a énormément de diversité et de richesse dans ce que vous allez écouter.
Merci Johan, on écoute la musique et on se retrouve juste après sur La Forêt des Possibles. Rebonsoir à toutes et tous, vous êtes toujours dans l'émission de La Forêt des Possibles 88.4 et nous sommes toujours avec Johan Longchamp, agent immobilier pour Yadé, avec un format un peu particulier ce soir, puisque la question est ce soir, en termes de problématiques que nous vous proposons, de pouvoir interroger un professionnel de l'économie classique sur les impacts sociaux et environnementaux de son métier. Et la question du logement est une question qui est assez fondamentale. On a pas mal parlé des incidences sociales en première partie d'émission. Et donc, ce qu'on va vous proposer sur cette deuxième partie, ça va être de questionner les incidences plus environnementale liée à la question du logement avec pareil plusieurs chapitres, et on va commencer sur un chapitre lié à la rénovation, aux passoires thermiques, aux performances énergétiques. J'ai envie de faire une petite appendice à quelqu'un qu'on aime bien recevoir qui s'appelle Lucas Zufik qui est venu présenter il y a quelques semaines une coopérative de la rénovation écologique des bâtiments qui s'appelle Cooter, qui est portée par sa structure qui s'appelle Amerma et qui réunit jusqu'à 70 structures. Et donc il travaille sur ces questions de la rénovation. Un petit chiffre pour commencer sur la question de la rénovation et de l'état du bâti. J'en donnerai un seul parce que moi je ne suis pas aussi expert que mon invité. C'est le nombre de logements qui... Je ne m'entends plus dans le micro. Je me réentends dans le micro. C'est le nombre de logements qui sont en catégorie G au DPE et il y en a 10 000. Est-ce que tu peux nous dire à Marseille ce que ça veut dire que ce charabia... c'est quoi les catégories? C'est quoi le DPE?
Ouais. Alors le DPE, c'est-à-dire le diagnostic de performance énergétique, tout ça découle de la loi climat résilience. Alors donc ça invite tout simplement à optimiser la performance énergétique des appartements. Donc tout simplement pour éviter, alors ça passe par exemple l'isolation. Donc ça isolait un logement pour garder la chaleur ou garder la fraîcheur. Ça passe aussi, par exemple, mettre une climatisation qui est moins énergivore. Voilà, ça passe par tout ça. Et l'idée, effectivement, c'est de réduire notre empreinte en CO2 et en consommation d'énergie. Donc c'est une démarche qui est tout à fait louable et intéressante. Par contre, la loi climat résilience, elle va un petit peu plus loin. Elle va dans le sens où elle limite l'artificialisation des sols. Donc, limiter l'artificialisation des sols, c'est quoi? C'est en fait, avant, tu avais un petit village, et autour de ce petit village, on prenait toujours des petits lopins de terre ou des champs, et puis on en faisait des lotissements, on construisait des maisons. Et donc, les villes s'élargissaient de manière horizontale. Donc, ça, quelque part, c'est bien. Mais donc la loi climat résilience, si elle limite l'artificialisation des sols, elle va donc privilégier la rénovation des centres-villes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait une expansion horizontale de la ville, on aura une expansion verticale.
Mais là-dessus, on peut donner deux éléments. Le premier, au moins un minimum, et le premier, c'est la question de la préservation de la biodiversité.
Oui.
Les marais, les forêts, les champs, pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce côté galopant.
Ouais.
La deuxième question, c'est aussi une question autour des transports. Avec le fait que si la ville s'étend de manière horizontale, l'accès aux services de base va forcément être plus lointaine du fait qu'il y ait une moindre concentration.
Ouais.
Et donc ça, pour le coup, à la fois sur le volet environnemental avec la question de la pression qui peut être faite sur la biodiversité, et sur le volet social sur est-ce que j'ai une pharmacie, est-ce que j'ai un médecin, est-ce que j'ai une imprimerie, est-ce que j'ai une boulangerie, est-ce que j'ai je sais pas le magasin, un traiteur qui est juste à côté de chez moi. Ça a des incidences, non?
Ça a effectivement des incidences, mais sur ce que je venais de dire, dans le sens où en fait, on propose à l'être humain de vivre en appartement plutôt que de vivre dans une maison avec un petit lopin de terre. Et c'est un peu une discussion philosophique qu'on avait eu aussi hier ensemble, dans le sens où l'homme, il est quand même rattaché au sol et à la nature.
Mmh.
Et c'est paradoxal quand même. Parce qu'au final, cet homme qui part de la nature aujourd'hui, on veut le mettre plutôt dans un appartement plutôt que dans une maison individuelle où il pourrait être attaché à un potager, à quelque chose. Donc c'est compliqué.
C'est là où on peut traduire du commun. Typiquement, avoir un immeuble, mais un grand jardin partagé avec ouais. chacun la main dans la terre. Et ensuite, pour le coup, là, je vais reparler en mon jeu. Hein. Moi, j'adore aller en forêt, faire de la grande rando. J'habite en appartement. Ça me va parce que j'ai tout à pied à côté de chez moi, de manière très immédiate. J'ai tous les transports, etc. Et pour le coup, j'adore aller dans un espace où je sais qu'aussi la biodiversité est vraiment préservée. Et je préfère aller dans une forêt que dans une zone périurbaine pour me reposer.
Ouais.
Non ? Tu m'as l'air circonspect.
Tu prends les transports aussi pour aller à la montagne, pour aller donc. Ouais. C'est pareil, t'as aussi une empreinte pour te déplacer et aller dans ces zones.
Ouais, j'y vais en l'occurrence, comme j'ai pas de voiture, j'y vais en train. Du fait justement d'être accessible, enfin la gare est à 15 minutes à pied de chez moi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement pratique. Souvent, je me pose la question de me dire si j'habitais dans une maison, mais de manière un peu plus décentrée de l'étoile, en l'occurrence, j'habite à Noailles.
Ouais.
Y aurait plein de choses que je fais aujourd'hui que je pourrais pas faire. Ou de manière différente, ça me coûterait peut-être plus cher.
Bah c'est aussi c'est la modernité qui pollue aussi, parce qu'en fait avant en France on avait quand même une majorité d'agriculteurs et de ruraux. Ces gens-là ils se déplaçaient pas, ils restaient sur place, ils cultivaient la terre et puis ils étaient heureux comme ça. Maintenant effectivement on a une population urbaine qui est obligée de se déplacer pour aller profiter de l'espace naturel et donc polluer.
Mais en tout cas, j'entends ton point, parce que ton point, c'était de dire qu'il y a la loi climat-résilience de 2021, il me semble, qui était à la fois sur la question de la rénovation des bâtiments et aussi sur la question de l'empreinte que ça a au sol. Et donc, j'aimerais qu'on revienne sur cette question de la rénovation, et notamment sur les questions que tu peux avoir de manière très concrète dans ton travail. Quels sont les conseils que tu vas donner aujourd'hui à un propriétaire dont le bien est mal classé énergétiquement ?
Alors, le propriétaire, il est quand même accompagné, il touche quand même la prime Rénov, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait minimum deux gestes, ce qu'on appelle deux gestes, c'est-à-dire, par exemple, tu changes tes fenêtres et puis tu fais isoler ton toit, tu as le droit à ma prime Rénov. Alors, je sais que les aides ont un peu diminué, là, en septembre, mais elles existent toujours. Et il faut le faire. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu as une note inférieure à D, tu ne peux pas louer.
Ok.
Du moins tu vas avoir des impossibilités de louer, je crois que c'est à partir de 2032.
Et tu peux vendre ?
Tu peux vendre, mais tu auras l'interdiction de louer.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on loue un bien immobilier, on est obligé de donner le dossier de diagnostic au locataire. Et que le locataire, si à un moment donné la note est vraiment mauvaise, il a la possibilité de stopper le versement de ses loyers pour que le logement soit amélioré.
En dessous de D ?
En dessous de... Alors je te dirais peut-être une bêtise, mais je crois que si à partir de F, G, il peut commencer à... Donc là, ça se passe dans le cas de figure où si tu as un appartement, par exemple, qui est à la location, il n'y a pas eu de DPE puisque le bien est loué peut-être depuis, je ne sais pas, je te dis une bêtise, depuis 2005. Mais le locataire peut demander, à un moment donné, rattaché à son bail, qu'en annexe, il y ait un diagnostic qui soit fait.
Parce que là, typiquement, cette question, là où moi, elle m'a beaucoup frappé tout à l'heure, je parlais des quartiers, c'est que c'est une question écologique vraiment du quotidien. C'est-à-dire, quand on parle d'écologie... À plein de gens, ça peut paraître lointain, mais l'été j'ai trop chaud, l'hiver j'ai trop froid parce que mon logement est mal isolé.
Ouais.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans la chair, quoi. D'avoir froid, de sentir le vent qui passe, ou au contraire, l'été, d'être dans une véritable fournaise. À Marseille, il y a quand même un parc qui est assez ancien. On en parlait hier en préparant l'émission, parfois dégradé. Et la question que je te posais, et tu avais une réponse intéressante que je te laisserai présenter juste après, c'était est-ce que c'est plus un frein ou est-ce que c'est une opportunité en matière de rénovation que d'avoir ce parc ancien ?
Bah oui, c'est une opportunité parce que du coup, on peut le moderniser et on peut avoir, comment dire, les dernières technologies pour améliorer la performance énergétique d'un bien. Donc oui, il le faut. Mais par contre, il faut aussi que les pouvoirs publics, à ce moment-là, proposent aussi davantage d'aide pour aider les propriétaires et les investisseurs à rénover.
Tu m'avais présenté la question des trois fenêtres et le bâti un peu classique marseillais. Tu veux Je sais pas si ça te reparle quand je te le resitue comme ça. C'était un point un peu historique sur à quoi ressemblait le bâti ancien marseillais.
Ouais. Tout autour du Vieux-Port, ce qu'on appelle le Trois Fenêtres marseillais, en fait, ce sont des immeubles qui étaient construits avec les mâts des bateaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, la longueur fait la longueur standard d'un mât. Donc c'est des bâtiments qui sont souvent avec des planchers bois. Ces planchers bougent parce que les gens ont posé, je sais pas, du carrelage, etc. Et petit à petit, ces planchers s'affaissent. Et à ce moment-là, c'est là que les immeubles sont pris aussi, enfin, ont des difficultés sur la structure. On le voit souvent dans les cages d'escalier, tu vois des grosses fissures. Bien souvent, c'est lié au fait que les planchers soient alourdis. Donc ça, c'est un signe aussi de vieillesse, de vétusté. Et puis tu as aussi, ce qui est le plus radical pour les bâtiments, c'est l'eau. C'est à partir du moment où il y a une fuite dans un immeuble ancien qui n'est pas maîtrisé, petit à petit, elle va commencer par ronger la structure et les fondations de l'immeuble. Donc c'est super important de faire des diagnostics. Ouais.
La question de l'eau, ça m'amène un peu sur la suite, avec un nouveau chapitre sur la question des risques climatiques. Les enjeux de la chaleur, de l'inondation, du littoral. Je peux donner quelques chiffres avant de poser la question. Selon une étude qui avait été commandée par la métropole et la ville de Marseille sur l'état du centre-ville à Marseille d'ici 2050, le ressenti au sol à 14h en 2050 serait de 90 degrés, ce qui est absolument impossible pour l'espèce humaine que de vivre correctement avec ça. Pourquoi ? Notamment du fait des îlots de chaleur, avec une chaleur qui s'emmagasine et qui reste stockée par du béton. Le fait qu'il n'y ait pas du tout d'espace où la chaleur puisse repartir avec des ruelles étroites, pas d'îlot de fraîcheur. Une rénovation qui, pour certains de ces immeubles, est encore très largement à refaire. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a la question de la chaleur, la question des incendies. Cet été, on a quand même été marqué par le nord de la ville qui s'est fait lécher par les flammes et plusieurs dizaines de maisons qui ont brûlé du côté de l'Estac et des incendies qui vont malheureusement pas décroître. On en aura de plus en plus tous les ans. La question des inondations. Avec dès qu'il pleut, on voit bien le fait que le Vieux-Port se retrouve complètement inondé et que c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus marqué. Et il y a aussi quelque chose qui n'est pas directement lié à un risque climatique, mais plus une catastrophe naturelle. Selon l'UNESCO, d'ici 2050, il y a 100% de risque d'un tsunami avec une vague de 1 mètre sur le bassin méditerranéen français. Donc ça va de Nice jusqu'à Cannes et jusqu'à Marseille. Et donc une vague de 1 mètre, on voit bien sur le Prado, qui est directement quasiment à l'échelle de la mer, qu'elle pourrait monter quasiment jusqu'au Vélodrome, quoi. Donc voilà, ça c'est quelques éléments. Je voulais savoir comment ça, ces questions climatiques et son changement, ça influençait les choix des acheteurs. Donc la question des îlots de fraîcheur, de chaleur, la proximité au littoral ou pas, les risques d'incendie ou d'inondation.
Ouais. Pour moi, ça n'impacte pas les prix. C'est-à-dire que du fait qu'il y a un risque de tunnel, enfin, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et c'est pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, à mon sens. Et si tu veux, ça n'impacte pas le prix du mètre carré sur les quartiers du centre-ville ou dans le 7e. C'est l'exemple que je te donnais. T'as le tram qui est en train de s'installer au pied du parc Sévigné, derrière le stade Vélodrome. Et donc c'est une grande tour de, je crois, 13 ou 17 étages, je crois. Pour autant, les prix au mètre carré n'augmentent pas. Alors que le tram, ça fait 2 ans qu'on le voit et qu'il est en train de se construire. Et je pense que les prix augmenteront qu'à partir du moment où le tram, au mois de décembre, janvier, sera en circulation. Donc ça, en fait, je pense que tant que les choses ne sont pas arrivées, il n'y a pas de conséquences et il n'y a pas d'impact. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça et c'est humain.
Parce que ça va poser des questions. Souvent, en fait, quand il y a une catastrophe, c'est après coup qu'on pose la question de la responsabilité. en se disant non mais comment c'est possible. Enfin, on l'a vu avec la tempête Cynthia en 2010 en France, où on se disait mais il y a plein de maisons qui ont été construites en Vendée sur des espaces inondables, etc.
Ouais.
C'est seulement après coup qu'on a dit cet espace-là, il faut le partir, ou alors rehausser vos maisons. Et donc ça, c'est ce que tu es en train de nous dire là en ce moment. Là, la question par exemple du tsunami, j'ai l'impression que
ça c'est pas un sujet. Jamais j'ai quelqu'un qui. Alors pourtant, en plus on le voit, tu sais, quand tu signes chez le notaire, t'as l'état des risques et pollution.
Ouais.
Quand tu donc ça c'est à la suite du diagnostic. Et donc tu es sensibilisé sur le fait, lorsque tu achètes ton appartement, est-ce que tu es en zone inondable, est-ce qu'il y a des argiles, est-ce qu'il y a un risque, quels sont les risques de pollution, quels sont les risques par exemple, je sais pas, d'usine Céveso à telle distance. Donc ça les hackers le voient et en sont sensibilisés. Mais par exemple, si je te parle de Marseille, tout le sol est argileux, donc ça change pas grand chose, quoi.
Bah ça, typiquement, ça me fait venir une question par rapport au Goud.
Ouais.
Il y avait 12 usines au 19e siècle, oui, au Goud, et il y a encore sur une des calanques des Goud une énorme chape de plomb orange, ouais, dégueulasse, où il ne faut pas se baigner dans cette calanque là, et pourtant c'est pas très bien indiqué.
Ouais.
Quand on est Marseillais depuis un certain temps, ou qu'on est Marseillais depuis toujours, on sait que les gouttes sont polluées. Mmh. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes en tant qu'agent immobilier? Parce que les gouttes, c'est aussi très paradoxalement, ça a vachement la cote.
Ouais, en ce moment. Ouais.
C'est hyper touristique.
Ouais.
On a l'impression d'être en Crète. C'est la Grèce à Marseille, quoi. C'est le bout du monde. Est-ce que y en a qui sont inquiets en disant attends, en fait, le sol il est hyper pollué. Qu'est-ce que je suis en train d'acheter? Ou finalement, c'est pas vraiment une question?
C'est pas véritablement ça. Ouais. Bah, de toute façon, la richesse de Marseille, c'est le fait que c'est un rassemblement de petits villages qui sont agglutinés. Et ils ont tous leur charme. Et les Goud a son charme. Et effectivement, c'est fou. Hein, parce que les Goud, tu mets bien 15-20 minutes pour arriver dans le centre-ville. Tu mets quand même un certain temps et puis ça bouchonne. Hein. Les gouttes, c'est super attractif, et c'est aussi super, c'est attractif parce que c'est touristique, et c'est aussi attractif pour les investisseurs parce que jusqu'à maintenant c'était pas trop cher, et là les prix commencent un peu à s'envoler.
Ah oui.
Parce que t'as le sentiment t'es à Marseille sans véritablement l'être.
Bah oui, ça c'est certain.
Ouais.
Non mais c'est intéressant de voir ça, parce que là, est-ce que c'est finalement une sorte d'acceptation du risque? Là, je peux même peut-être t'amener un peu sur la fin de la question, finalement, de se dire, bon, bah, on sait, mais en même temps, bon, bah, tant pis.
Bah, je pense que c'est de l'inconscience, ouais.
Ok. Oui, mais ça, c'est dans ta responsabilité. J'imagine que toi, à un moment, où, je sais pas qui a la responsabilité, ça peut être présenté.
Ouais.
Quand tu vas chez le notaire, c'est écrit quelque part, peut-être en petit, dans le diagnostic. C'est
ouais, écrit... ouais, sur... oui, tu le sais. Mais bon, je pense que. Enfin, il y a tellement de transactions, puis il n'y a pas non plus un risque si fort que ça.
Mais il n'est pas immédiat.
Il est maîtrisé, sinon ce serait pas constructible.
Je saurais pas. Me pose, là, je n'ai pas fait de recherche là-dessus.
Normalement, il est quand même maîtrisé par les autorités.
Je n'ai pas fait de recherche sur cette question-là. Et puis, de toute façon, je vois qu'on arrive en fin d'émission et j'ai envie de t'amener sur des questions plus prospectives. Oui. J'aurais deux questions. La première, c'est Marseille en 2035. Je te demande pas à quoi ça va ressembler, mais plus à quoi, selon toi, ça devrait ressembler.
Ah.
Après, si jamais t'as préparé la première question, t'as le droit de me répondre les deux et peut-être les différences. Mais ça serait quoi la ville idéale en tant qu'agent immobilier?
Ah, moi j'avais pas pris.
Mais si jamais t'as préparé une autre question sur à quoi ça ressemblera d'un point de vue plus factuel, y compris ce que ça.
Quoi ça devrait ressembler, Marseille?
Ouais.
Moi, je trouve que ce qui manque à Marseille, c'est les espaces verts. Il n'y en a pas suffisamment. Et ben, ça rejoint ta question de réchauffement climatique. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même beaucoup plus de parcs. Bon, après, l'agent immobilier te dit ça. Il faudrait qu'il y ait moins de parcs pour qu'on puisse construire plus dessus. Mais non, en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait plus de parcs. Bon, je pense qu'en plus, mécaniquement, ça augmenterait le prix du mètre carré. Et puis, ça serait une ville plus fraîche et plus agréable. À quoi d'autre ça devrait ressembler? Une ville qui puisse unir tous les quartiers, où ce serait plus simple de prendre les transports. Et c'est quelque part, c'est ce qui est en train aussi de se faire. Mais je pense notamment au 9e, qui est quand même un peu excentré, où c'est un petit peu plus compliqué de, d'y aller. Donc bon, c'est en train d'être résolu en partie grâce au tram et au boulevard urbain sud aussi. Mais voilà, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait de plus à Marseille peut-être, bon après, alors là je sors de l'immobilier, mais peut-être plus de, comment dire, plus d'événements, plus de sorties, plus d'animations. Il y en a déjà, il y a déjà eu un effort certain qui a été fait, hein, ça c'est sûr.
Ça, tu me disais que tu étais surpris par la friche et son activité en arrivant.
Ouais, ouais, qu'il y ait autant de monde comme ça en semaine, ouais, c'est une ville dans la ville, c'est...
Ouais, mais là, en t'écoutant, quand tu me disais qu'il fallait plus d'espace vert et plus de transport, finalement, est-ce que ça ne va pas aussi dans le sens de moins d'artificialisation et justement plus de concentration? Un, pour laisser de l'espace pour autre chose que des, du bâti, donc des espaces verts. Et aussi parce que si on veut du transport en commun, il faut qu'il soit rempli, sinon il n'est pas... Enfin, il y a un certain niveau de rentabilité où si jamais... Enfin, le tram, il faut qu'il traverse aussi des espaces qui soient très largement empruntés. Donc si on concentre, on aura aussi plus d'intérêt à avoir un transport en commun qui fonctionne partout.
C'est sûr. T'as raison. De ce côté-là, ouais.
Dernière question. À quoi ressemble ton métier dans 10 ans?
À quoi ressemble mon métier? Moi, mon métier, il évolue très vite. Je pense que dans 10 ans, l'IA sera omniprésente pour l'agent immobilier, ne serait-ce que déjà pour la prospection, pour l'estimation, et puis pour les informations apportées aux acquéreurs. C'est-à-dire que lorsque tu as un acquéreur qui t'appelle pour une annonce, je pense que l'IA pourra déjà répondre aux premières questions pour déceler si oui ou non le logement va l'intéresser.
Et ça, tu trouves que c'est souhaitable ou pas, ton avis là-dessus?
Je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut adopter cette modernité et qu'on peut pas aller contre. Alors après, je suis d'accord. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, j'ai de l'IA qui m'appelle.
Ah oui, pour les faux numéros, là?
Non. L'IA m'appelle sur des biens pour me poser des questions ou pour me demander si... Pour me demander des délégations de mandat. C'est-à-dire que j'ai un mandat et j'ai une IA qui m'appelle pour me dire « Est-ce que vous ne voudriez pas me déléguer ce mandat ?» Et donc, je communique avec l'IA. Et je dis, mais la délégation, je la donne à qui? Et alors, l'IA, forcément, ne te répond pas. Mais voilà, c'est la prospection téléphonique abusive. Ah, je crois que c'est la fin.
Effectivement, la question de l'IA, j'aurais pu te poser plein de questions là-dessus, mais ça sera pour une prochaine fois. Johan, merci beaucoup.
Merci, Marin.
Pour cette première de ce format de La Forêt des Possibles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va laisser le studio rapidement parce qu'on est attendu derrière. À bientôt, bonne soirée. Et merci à Jeanne en régie d'avoir enregistré cela avec Sidi. Ciao, ciao.